Le livre de Daniel, numéro 39.
Le dévoilement de la tapisserie prophétique, le rêve de William Miller et la restauration des vérités fondamentales dans les derniers jours.
Nous examinons l'application prophétique du rêve de William Miller dans les derniers jours, là où toutes les prophéties trouvent leur accomplissement parfait. Le rêve de malheur identifie la découverte, l'établissement, le rejet, l'ensevelissement et la restauration des vérités fondamentales de l'adventisme qui ont été rassemblées par le ministère de malheur. Ces vérités fondamentales représentaient les vérités qui ont été dévoilées en 1798. Ces vérités sont représentées par la vision du fleuve Ulai. Le rêve de malheur, tel qu'il est consigné dans le livre Early Writings, était son deuxième rêve, et ce rêve avait été préfiguré par le deuxième rêve de Nabuchodonosor, tout comme Miller lui-même avait été préfiguré par Nabuchodonosor. Des articles précédents ont montré comment la conclusion de la période de 7 ans, durant laquelle Nabuchodonosor vécut avec un cœur de bête, s'est achevée symboliquement en 1798. Son royaume fut alors rétabli et, pour la première fois, Nabuchodonosor représentait un homme pleinement converti. Du point de vue du temps de la fin, en 1798, il représentait les sages. Nous avons également établi qu'en tant que premier roi de Babylone, le jugement de 7 ans prononcé contre Nabuchodonosor préfigurait le jugement des 2520 de Belshazzar, Menemen-Tekel-Upharsin, qui fut le dernier roi de Babylone.
Au dernier souverain de Babylone, comme cela avait été Antipe pour le premier, était venue la sentence du veilleur divin. Au roi, il t'est dit, le royaume s'est retiré de toi. Daniel 4:31. Prophète et roi 433.
Sir White a identifié Belshazzar, au moment de son jugement, comme le « roi insensé ». À l'issue de l'heure de jugement de Nebuchadnezzar, il représente le roi sage, car il a bénéficié du jugement des 7 ans, et Belshazzar, bien qu'il connaisse l'histoire, a refusé d'en bénéficier.
Mais l'amour de Belshazzar pour le divertissement et la glorification de soi effaça les leçons qu'il n'aurait jamais dû oublier. Et il commit des péchés semblables à ceux qui attirèrent des jugements sévères sur Nabuchodonosor. Il gâcha les occasions qui lui furent gracieusement accordées, négligeant d'utiliser les occasions à sa portée pour apprendre à connaître la vérité. « Que dois-je faire pour être sauvé ?» était une question que le grand, mais insensé, roi ignora avec indifférence. Bible Echo, 25 avril 1198.
Nabuchodonosor est un symbole des sages, en 1798, qui comprennent l'accroissement de la connaissance au temps de la fin.
Sa fière fanfaronnade avait à peine quitté ses lèvres qu'une voix du ciel lui annonça que le temps fixé par Dieu pour le jugement était arrivé. En un instant, sa raison lui fut dotée et il devint comme une bête. Pendant 7 ans, il demeura ainsi avili. Au terme de cette période, sa raison lui fut rendue. Levant alors les yeux avec humilité vers le grand Dieu du ciel, il reconnut la main divine dans ce châtiment et fut de nouveau rétabli sur son trône. Par une proclamation publique, le roi Nabuchodonosor reconnut sa culpabilité et la grande miséricorde de Dieu dans son rétablissement. Ce fut le dernier acte de sa vie tel qu'il est consigné dans l'histoire sacrée. Review and Herald, 1er février 1881.
À la fin des 7 ans de Nabuchodonosor, il fit une proclamation publique qui comprenait une confession publique. Miller, comme Nabuchodonosor, symbolise les sages en 298 qui comprennent l'accroissement de la connaissance au temps de la fin. Ils eurent tous deux songes, et leur second songe respectif identifie symboliquement les 7 ans. Il a été montré dans des articles précédents que les 7 ans marquent un point de transition. En 459, Nabuchodonosor marque une transition de sa condition orgueilleuse à celle des sages. Cette transition incluait sa confession publique. 458 fut aussi le point de transition entre les 5e et 6e royaumes de la prophétie biblique. Cela a également marqué l'arrivée du premier ange, inaugurant ainsi une nouvelle dispensation, car l'avertissement du jugement à venir ne pouvait avoir lieu tant que le 5e royaume de la prophétie biblique n'avait pas reçu sa blessure mortelle.
Le message lui-même est clair sur le moment où ce mouvement doit avoir lieu. Il est déclaré faire partie de l'Évangile éternel. Et il annonce l'ouverture du jugement. Le message du salut a été prêché à toutes les époques. Mais ce message est une partie de l'Évangile qui ne pouvait être proclamé que dans les derniers jours, car ce n'est qu'alors qu'il serait vrai que l'heure du jugement était venue. Les prophéties présentent une succession d'événements aboutissant à l'ouverture du jugement. Cela est particulièrement vrai du livre de Daniel. Mais la partie de sa prophétie qui concernait les derniers jours, Daniel reçut l'ordre de la clore et de la sceller, jusqu'au temps de la fin. Ce n'est qu'en atteignant cette époque qu'un message concernant le jugement pouvait être proclamé, fondé sur l'accomplissement de ses prophéties. « Mais, au temps de la fin, dit le prophète, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera. » Daniel 12:4. L'apôtre Paul avertit l'Église de ne pas attendre la venue du Christ de son temps. « Ce jour-là ne viendra pas, dit-il, qu'il ne soit arrivé auparavant l'apostasie et que l'homme du péché soit révélé. » 2 Thessaloniciens 2:3. Ce n'est après la grande apostasie et la longue période du règne de l'homme du péché que nous pouvons attendre l'avènement de notre Seigneur. L'homme du péché, également appelé le mystère de l'iniquité, le fils de perdition, et l'impie, représente la papauté qui, comme l'annonçait la prophétie, devait conserver sa suprématie pendant 1260 ans. Cette période s'achevait dans 2798. La venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette époque. Par sa mise en garde, Paul couvre toute la dispensation chrétienne jusqu'en 2798. C'est après cette époque que le message du second avènement du Christ doit être proclamé. Un tel message n'a jamais été donné à aucune époque passée. Paul, comme nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il orientait ses frères vers un avenir alors très lointain quant à la venue du Seigneur. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé. Martin Luther situait le jugement environ 300 ans dans l'avenir par rapport à son époque. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé, la connaissance des prophéties s'est accrue et beaucoup ont proclamé le message solennel du jugement proche. La grande controverse, 386.
Et surtout ni cette navetiet, une nouvelle dispensation de l'œuvre du salut arriva, et cette nouvelle dispensation avertit à Konitschul qu'une autre dispensation commencerait en 1844. Lors de ce changement de dispensation, une porte se fermerait et une porte s'ouvrirait.
Et à l'ange de l'Église de Philadelphie écrit : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, et qui ferme et que personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Apocalypse 3, 7, 8.
L'ouverture d'une porte marque une nouvelle dispensation. Il y eut un changement de dispensation des royaumes et du message en 1798, à la fin de la première indition, qui s'est accomplie de 723 avant Jésus-Christ jusqu'en 1798. Il y eut aussi un changement de dispensation en 1844, à la fin de la dernière indition, qui s'est accomplie de 677 avant Jésus-Christ jusqu'en 1844. En 1798, la dispensation du message du premier ange, qui avertissait du jugement imminent, arriva. Nabucodonosor et Mineur sont tous deux représentés comme les sages au temps de la fin, lorsque la porte s'ouvrit à la dispensation interne du message du premier ange et au changement de dispensation externe de la bête de la mer à la bête de la terre. La dispensation du message du premier ange s'accomplit lorsque la porte du lieu très saint fut ouverte le 22 octobre 1844. Et la dispensation du troisième ange ainsi que le jugement investigatif arrivèrent. Le deuxième rêve de Miller commence lorsqu'une porte a été ouverte en 1798 et il se termine lorsqu'une porte a été ouverte durant la période de transition des deux témoins qui sont ramenés à la vie afin de proclamer le message du cri de minuit. Prophétiquement, Nabuchodonosor et Miller représentaient tous deux la transition du royaume de la bête de la mer vers le royaume de la bête de la terre en 1798. Ils représentent tous deux l'annonce de l'approche et de l'arrivée du jugement investigatif en 1844. 1798 et 1844 représentent la conclusion des premières et dernières indignations de Dieu contre son peuple, qui se sont accomplies durant la période des 7 ans, comme l'énonce Lévitique 26. Les 46 années de 1798 à 1884 représentent l'édification du temple spirituel, dans lequel le messager de l'Alliance est soudainement venu, le 22 octobre 1844, alors que Christ est passé du lieu saint au lieu très saint.
Non lentenade plose et 1854, idonity of des transitions plus d'une, qui sont marquées par les 7 ans. La transition de l'adventisme millérite philadelphien vers l'adventisme millérite laodicéen en 1856 fut également marquée par un accroissement de la connaissance des 7 ans, qui fut ensuite rejeté en 1863. En 1874, il y avait eu un accroissement de la connaissance provenant du livre de Daniel, qui incluait ces mêmes 7 ans. De Lévitique 26, qui devait être rejeté à la fin de l'adventisme millérite philadelphien.
La transition du mouvement du premier ange de Philadelphie à Laodicée a été représentée par les 7 années de 1856 à 1863.
Le message Laodicée arriva en 1856, et pendant 7 ans, la nouvelle lumière des 7 ans, qui avait été décelée, produisit un processus d'épreuve en 3 étapes auquel l'adventisme déchoua en 1863. 7 ans furent accordés pour que la lumière des 7 ans soit reçue ou rejetée. La transition du mouvement de l'adventisme philadelphien millérite vers l'adventisme Laodicée millérite typifie l'inversion de la séquence à la fin. La transition du mouvement laodicéen du troisième ange vers le mouvement philadelphien du troisième ange, la prophétie des 65 étant d'Isaïe, marque le début de la première, puis de la dernière colère de Dieu contre les royaumes du nord, puis du sud d'Israël.
Car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas, c'est Retsin. Et d'ici 65 ans, Éphraïm sera brisé, au point de ne plus être un peuple. Ésaïe 7:8.
La prophétie d'Isaïe des 65 ans fut donnée en 742 avec Jésus-Christ, et dans un délai de 65 ans, le royaume du Nord disparaîtrait. 19 ans après 742 avec Jésus-Christ, en 723 avec Jésus-Christ, le royaume du Nord fut emmené en esclavage par la Syrie. À l'issue des 65 ans, l'indignation du royaume du Sud commença en 678 avec Jésus-Christ, lorsque Manassé fut fait captif par les Babyloniens. Les 65 ans représentent donc une période de 19 ans jusqu'à la première captivité du royaume du Nord, puis encore 46 ans jusqu'à la captivité de Manassé. Ces prophéties ont trouvé leur accomplissement, respectivement, en 1798, 1844 et 1863. En 1798, une transition interne du message du salut s'est produite avec l'arrivée du premier ange, et une transition externe des royaumes de la prophétie biblique a également eu lieu. En 1844, une transition interne du message du salut, cet accomplissement, alors que la porte du lieu saint a été fermée et que le jugement d'investigation a commencé avec l'arrivée du troisième ange. En 1863, un changement externe s'est produit lorsque les deux cornes de la bête de la terre se sont scindées en 2 classes.
La corne républicaine se scinda en 2 partis politiques, qui dominèrent l'histoire de la bête de la terre à partir de ce moment-là. La corne protestante se divisa en 2 manifestations d'apostasie, un parti se disant protestant et prétendant observer le sabbat du 7e jour, et une autre classe se disant protestante, mais qui adoptait le jour du soleil comme jour de culte de leur choix.
Dans cette histoire, la corne protestante qui était sortie des âges sombres a été mise à l'épreuve du 11 août 1840 au 22 octobre 1844, et a échoué à cette épreuve, passant du peuple protestant observant le dimanche au peuple protestant apostat observant le dimanche et patrestu. Dans l'histoire de la véritable corne protestante qui a été établie et identifiée en 1744, une période d'épreuve a eu lieu de 1856 à 1863. Puis la véritable corne protestante observant le sabbat est passée à la fois de Philadelphie à Laodicée et aussi du véritable peuple protestant observant le sabbat à la corne protestante apostate observant le sabbat. Les 7 ans sont associés à 1798, 1844, 1856 et 1863. Les 7 ans sont un symbole associé à un point de transition, et cette vérité est établie par plusieurs témoins. En Furkotsessa Tantvit, la connaissance des 7 ans augmenta, car la toute première prophétie de temps que Miller avait découverte était précisément cette vérité. Dès 1873, cette vérité avait été rejetée, identifiant ainsi la conclusion de la période finale des 65 ans de la prophétie énoncée dans Ésaïe, chapitre 7. La prophétie complète des 2520 ans comporte une période de 65 ans au début comme à la fin, de façon inversée, comme en miroir. Au début des 65 dernières années, 1798, typifié par le début des 65 premières années, en 742 avant Jésus-Christ, lorsque la prophétie fut donnée, il y eut un accroissement de la connaissance au sujet des 7 ans, que les Millerites sages comprirent et proclamèrent. À la fin des 65 dernières années, en 1163, il y eut un autre accroissement de connaissances sur cette même vérité, qui fut finalement rejetée par les prêtres récemment couronnés de la véritable corne protestante.
Mon peuple est détruit faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi, et tu ne seras plus sacrificateur pour moi. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Osée 4:6.
L'accroissement de la connaissance lorsque le livre de Daniel est décelé est associé aux 7 ans, de sorte qu'il constitue non seulement un symbole d'un moment de transition, mais aussi du décellement du message prophétique. Une autre transition a commencé le 18 juillet 2020 avec la première déception, qui inaugura le temps d'attente et marqua le début des 3 jours et demi du chapitre 11 de l'Apocalypse,
durant lequel les deux témoins gisaient morts dans la rue de la grande ville de Sodome et d'Égypte.
Le 18 juillet 2020 marque le début de 3 jours et demi symboliques, un 7 temps qui avait été illustré par l'histoire de 1856 jusqu'en 1863. Les deux périodes sont des symboles des 7 temps. Les deux périodes marquent un changement de dispensation, une transition. Les deux périodes représentent un accroissement de la connaissance en lien avec les 7 temps.
C'est durant la période de transition du royaume de Babylone au royaume des Mèdes et des Perses que Daniel a prié la prière du Lévitique 26, identifiant ainsi la prière du Lévitique 26 comme un jalon de la transition des derniers jours. Dans le rêve de Miller, à la fin de cette occurrence du mot « dispersion », Miller pleure et prie. Les larmes marquent le moment où le lion de la tribu de Juda, l'homme à la brosse à poussière, décèle un message qui était scellé.
La prière de Miller marque la prière de Daniel, liée au Lévitique 26, qui est associée à 7 temps, et se produit lorsque la porte et les fenêtres s'ouvrent dans le rêve de Miller. Mais la prière de Daniel, au chapitre 9, s'aligne aussi avec la prière de Daniel au chapitre 2. Elle s'aligne également avec la prière de confession de Nabuchodonosor à la conclusion de ses 7 temps.
La prière de Miller était donc représentée par la prière du chapitre 26 du Lévitique, qui était une prière publique de confession et une prière demandant la levée du sceau du dernier secret prophétique, car toute prophétie illustre les derniers jours. Par conséquent, le secret de Daniel chapitre 2 représente le dernier secret à être décelé. La prière de Miller, dans son rêve, était une prière d'angoisse et d'indignation juste concernant les abominations qui étaient arrivées au joyau de sa chambre. Son angoisse était illustrée par ceux qui soupirent et pleurent dans Ézéchiel chapitre 9, durant le temps du scellement des 144 000.
Miller vit les vérités être progressivement ensevelies par des doctrines contrefaites, ce qui conduisit finalement au point où le coffret, la Bible elle-même, fut détruit. La destruction du coffret de Miller eut lieu à la 3e génération de l'adventisme, lorsqu'un mouvement délibéré visa à écarter la Bible King James au profit de versions modernes de la Bible corrompues et d'inspiration catholique.
Miller pleura, puis pria, in ocito in port souvri, et tout son alerte. Alors l'homme à la balayette, le lion de la tribu de Juda, entra, ouvrit les fenêtres et se mit à nettoyer. Miller exprima ensuite son inquiétude au sujet des bijoux éparpillés et l'homme à la balayette promit qu'il s'occuperait des bijoux. Dans l'agitation du nettoyage de l'homme à la balayette, Miller ferma les yeux un instant et lorsqu'il les rouvrit, la saleté avait disparu. Les bijoux étaient éparpillés dans la pièce et l'homme à la balayette posa alors le plus grand procès de coffret sur la table, rassembla les bijoux et les jeta dans le coffret, puis dit « Viens et vois ».
L'expression « viens et vois » est un symbole indiquant qu'une vérité vient d'être dévoilée. La vérité qui est dévoilée pour Miller est la vérité ultime, car l'événement suivant est le réveil de Miller au cri, représentant le grand cri. Miller fut le dernier à recevoir le message du cri de minuit dans l'histoire des Millerites, et juste avant le cri qui le réveille dans le rêve, il ferma les yeux un instant. Le seul passage de la Bible qui fait référence à un moment et aux yeux identifie la première résurrection.
Voici, je vous révèle un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, et les morts seront ressuscités incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15, 51-53.
Dans l'histoire de la transition du mouvement laodicéen du troisième ange vers le mouvement philadelphien du troisième ange, telle qu'elle est représentée au chapitre 11 de l'Apocalypse, Miller représente le tout dernier parmi les vierges sages à recevoir le message du cri de minuit. Les premiers à le recevoir étaient les plus spirituels.
C'était le cri de minuit qui devait donner de la puissance au message du second ange. Des anges furent envoyés du ciel pour animer les saints, décourager et les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les plus capables ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Des anges furent envoyés vers les humbles et les dévoués et les contraignirent à lancer le cri « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre !» Ceux à qui l'on avait confié ce cri se hâtèrent et, par la puissance du Saint-Esprit, firent retentir le message et ranimèrent leurs frères découragés. Cette œuvre ne reposait pas sur la sagesse et le savoir des hommes, mais sur la puissance de Dieu, et ces saints qui entendirent le cri ne purent y résister. Les plus spirituels reçurent ce message les premiers, et ceux qui avaient autrefois conduit l'œuvre furent les derniers à le recevoir et à contribuer à amplifier le cri « Voici, l'époux vient, sortez à sa rencontre !» Premiers écrits, 238.
À la fin des 3 jours et demi symboliques du chapitre 11 de l'Apocalypse, le premier de deux messages, représenté au chapitre 37 d'Ézéchiel, est proclamé. Le premier message rassemble les ossements morts et dispersés, mais ils sont encore morts. Le message a été présenté par la voix qui criait dans le désert, ce qui indique que le message d'Ézéchiel commence avant l'achèvement des 3 jours et demi symboliques. Ces 3 jours et demi représentent un désert, et c'est depuis le désert que le message est proclamé. Le désert est aussi un symbole des 7 temps, qui marque une transition et un décèlement qui introduit un processus d'épreuve.
Il y a un développement progressif du message et une réception progressive, comme l'illustre le cri de minuit dans l'histoire millérite. Les plus spirituels furent les premiers à recevoir le message de la voix qui crie dans le désert, et les historiens de l'adventisme mentionnent une lettre écrite par William Miller quelques jours avant le 22 octobre 1844, où Miller témoigne qu'il a finalement compris et accepté le message du cri de minuit de Samuel Snow.
Cher frère Himes, je vois une gloire dans le 7e mois que je n'avais jamais vue auparavant. Bien que le Seigneur m'ait montré la portée typologique du 7e mois il y a 1 an et demi, je ne mesurais cependant pas la force des figures. Maintenant, béni soit le nom du Seigneur, je vois une beauté, une harmonie et un accord dans les Écritures pour lesquelles j'ai longtemps prié, mais que je n'avais pas vu jusqu'à aujourd'hui. Bénisse le Seigneur, ô mon âme. Que le frère Snow, le frère Storrs et d'autres soient bénis pour avoir été des instruments pour m'ouvrir les yeux. Je suis presque à la maison. Gloire, gloire, gloire. William Miller. Signs of the Times, 16 octobre 1844.
Dans la répétition de l'histoire du cri de minuit, telle qu'elle est représentée dans le rêve de Miller, Miller ferma les yeux un instant. Ainsi, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts seront ressuscités. Dans le rêve de Miller, il représente les derniers à recevoir le message du cri de minuit, comme dans sa propre histoire. Il représente ceux qui finissent par accepter le message juste avant que l'homme à la balayette ne ramasse les joyaux dispersés et ne les jette dans le coffret plus grand. Au chapitre 11 de l'Apocalypse, les derniers à accepter le second message d'Ézéchiel, qui est le message des 4 vents de l'islam, et qui est aussi le message du scellement, le font juste avant que la dernière des 7 trompettes ne sonne, à savoir la trompette du 3e malheur. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15:52.
Le passage identifie la première résurrection qui a lieu lors du second avènement, mais il y a aussi une résurrection des ossements desséchés, les 2 témoins, qui a lieu à l'heure du grand tremblement de terre du chapitre 11 de l'Apocalypse. À l'heure de ce tremblement de terre, la dernière des 7 trompettes retentit, et les témoins morts qui étaient dans la rue sont ramenés à la vie, non pas comme des Laodicéens, mais comme des Philadelphiens. Car à la trompette du 3e malheur, les 2 témoins ont été scellés et rendus incorruptibles, car ils ne pécheront plus jamais. Miller représente les derniers à recevoir le message qui fait revivre les 2 témoins, qui est le message des 4 vents de l'islam, et qui est le message du scellement. Le son de cette trompette fait se lever les derniers ossements desséchés qui avaient été dispersés dans la rue de Sodome et d'Égypte. Miller assista à l'ensevelissement progressif des vérités sous des doctrines contrefaites. Finalement, Miller pleura, marquant le moment où le décèlement devait commencer, car le décèlement est une œuvre progressive. Ce décèlement commença durant la période finale des 3 jours et demi. Après que Miller eut pleuré, celui qui avait le pouvoir de lever les sceaux du livre scellé intervint dans le récit. Dans le rêve de Miller, c'était l'homme à la brosse à poussière. Miller pria alors, et aussitôt, une porte s'ouvrit, marquant le moment où le mouvement laodicéen du 3e ange allait passer au mouvement philadelphien du 3e ange. Sa prière était la prière de Lévitique 26. C'était la prière pour la compréhension du dernier secret prophétique et une confession publique de la rébellion qui amena les 3 jours et demi sur les 2 témoins. C'était la prière de ceux qui sont scellés dans Ézéchiel chapitre 9.
Après la prière, Christ, l'homme à la balayette, entra et commença à nettoyer la chambre. À la fin du travail de nettoyage de l'homme à la balayette, Miller ferma les yeux un instant, reconnaissant la fin de la période au terme de laquelle les ossements desséchés devaient ressusciter. L'homme à la balayette rassembla ensuite les joyaux éparpillés dans la chambre de Miller et les plaça dans un nouveau coffret, plus grand
sur une table au centre de la chambre de Miller, tandis que les deux témoins sont élevés comme étendards. En tant qu'étendards, ils appellent alors l'autre troupeau de Dieu, qui est encore à Babylone, à venir et voir le message que le lion de la tribu de Juda vient de jeter dans le nouveau coffret plus grand. Nous commencerons, dans le prochain article, à considérer la vision du fleuve Oulai comme le symbole des vérités du livre de Daniel, qui fut décelé en 1798. Nous avons posé quelques points de repère en amont de cette réflexion. Le premier est que le message des Millerites était parfait, à son stade de croissance, mais incomplet. Il était inscrit dans le cadre de deux et non de trois puissances désolatrices. Le second est que lorsque le rêve de Miller identifie la restauration ultime des vérités fondamentales, ces vérités fondamentales sont alors 10 fois plus brillantes que leur gloire originelle. Un troisième point est que le mouvement du premier ange, le mouvement millérite, se répète dans le mouvement du troisième ange, mais avec quelques mises en garde importantes. Les millérites, en tant que symbole, étaient des Philadelphiens. Ils étaient un Nabucodonosor converti, mais qui, finalement et malheureusement, ont rebâti Jéricho en 1863. Le mouvement du troisième ange a commencé avec des Laodicéens ayant besoin de conversion. Mais il participerait finalement à la destruction finale de Jéricho, le Jéricho des derniers jours.
Le Sauveur n'était pas venu pour mettre de côté ce qu'avaient dit les patriarches et les prophètes, car il avait lui-même parlé par ses hommes représentatifs. Toutes les vérités de la parole de Dieu provenaient de lui. Mais ces joyaux inestimables avaient été placés dans de fausses montures. Leur précieuse lumière avait été mise au service de l'erreur. Dieu voulait qu'ils soient retirés de leur monture d'erreur et replacés dans le cadre de la vérité. Une telle œuvre ne pouvait être accomplie que par une main divine. Par son association avec l'erreur, la vérité servait la cause de l'ennemi de Dieu et de l'homme. Le Christ était venu pour la placer là où elle glorifierait Dieu et œuvrerait au salut de l'humanité. Le désir des âges, 287.